Voilà, deuxième partie, intitulée « Contemplation ». Alors, on va commencer par se poser une question. Qu'avons-nous acquis ce matin? Eh bien, certainement, je réponds pour vous.
Merci.
Merci, et merci que vous soyez d'accord avec moi. Eh bien, je pense que c'est la conscience que nous pouvons mieux répondre maintenant à la question que je posais dans l'introduction. Quel est le sens de cette existence, de tout ce qui nous entoure, de nous-mêmes et de tout ce que notre intelligence nous fait découvrir? Première réponse. Nous avons compris que la question du sens a raison d'être posé valablement, parce que l'esprit qui est en nous et qui nous vient de Dieu a pour fonction de nous faire découvrir et dire la vérité dans tous les domaines du créé. La preuve est cette affirmation, nous l'avons faite. Nous l'avons faite à partir des sens charnels et spirituels qui effectivement sont d'un don créé et par lesquels l'esprit permet de comprendre et de s'ouvrir même jusqu'aux réalités supérieures. Donc nous avons compris qu'il était juste de pouvoir poser ces questions. C'est déjà important. Les questions sont recevables. Deuxièmement, nous comprenons que notre besoin de sens est ce que tous les hommes, depuis les origines, et spécialement de la révélation biblique, ont connu. Tous ont, du fait de leur nature humaine, ont eu les mêmes préoccupations que nous avons autour de cette table aujourd'hui ensemble. Et la preuve, c'est tous les témoins. Mais on n'en a pas vu beaucoup, parce qu'on a vu Moïse, mais il y en aurait bien d'autres, puis surtout en dernier la Vierge Marie. Mais il y en a un que j'aurais bien aimé, mais c'est autre chose, on pourra en parler si vous voulez comme ça. C'est Ézéchiel, j'aime beaucoup Ézéchiel. Tous ces témoins qui, eux aussi, ont reçu un désir de connaître les réalités d'en haut, le sens de la révélation, comment le Seigneur intervenait dans leur vie, par quelle forme d'inspiration, et c'est ce que nous vivons. Donc, on a compris que ce besoin que nous avons, c'est un besoin inné, donné aux hommes, et que tous nos frères et sœurs ont toujours expérimenté et expérimenteront encore à l'avenir. Et troisièmement, nous avons vu que notre quête de sens ne s'arrête pas simplement à la connaissance de notre univers, mais que par l'essence spirituelle, nous pouvons commencer à prendre la petite échelle et monter de rayon en rayon jusque devant les grandes portes célestes et qui sont là où nous regardons à travers les portes, comme on le fait dans les portes célestes. Nous regardons les anges, ils sont là, ils sont bien là. Mais nous sommes invités à y rentrer, mais alors, la deuxième voix te dit, ben voilà, mon petit bonhomme, tu le vois, mais tu ne peux pas y rentrer. Il faut que ce soit la troisième voix qui te fasse rentrer. Bon, nous perçons donc un autre monde, né du génie divin, du Créateur, et il est donc valable de le chercher et de chercher à le connaître. Quatrièmement, nous avons fait du beau travail. Nous avons apprécié cette quête du sens et reconnu toute sa valeur, puisqu'elle nous a amené jusqu'à penser à la cité angélique et qui nous a dit, mais vous pouvez déjà la célébrer par l'Eucharistie. Et même si ce spectacle est trop brûlant pour nos yeux de chair et même d'esprit, néanmoins, nous en avons perçu la possibilité. et nous avons quitté sans regret cette requête du sens, la requête des gens heureux d'avoir expérimenté avec lucidité nos limites, donc notre pauvreté, devant des réalités inaccessibles, la lumière inaccessible. Et le dernier mot de ce que nous a apporté la deuxième voie d'union que nous avons ce matin, c'est avoir entrevu la grandeur de l'intelligence infinie du Créateur, dont nous n'apercevons que la frange du manteau, mais nous avons pris conscience qu'il faut maintenant faire une autre demeure, une autre démarche pour assouvir enfin notre désir d'union. Ce sera la démarche de l'amour. Maintenant, reste devant nous la contemplation. Ah, voilà. La contemplation, c'est le regard émerveillé. C'est le chant du pauvre. C'est le don de frémissement de l'être devant l'existence. C'est la perle sans prix. C'est le poème qui donne chair à la vie cachée, à la violette sous la feuille oubliée. Contemplation, qui es-tu ? Eh bien, je vois un jardin d'Éden avec ses arbres aux fruits divers. Et celui qui attire encore plus que les autres arbres, je vois des sources et des fleuves, le bondissant et le coulant. Je le vois comme un reflet d'un autre jardin enchanté, celui que cultive la Sainte Trinité. Mais quelles sont donc ces fleurs qui y sont cultivées dans ce jardin d'éternité? Quels sont les animaux qui enchantent l'existence divine? Quel est donc ce soleil et quelle est donc cette pluie qui font fleurir les coquelicots? Mais quel chat miaule à la porte céleste pour percevoir sa nourriture? Quel oiseau vient-il se percher sur les épaules du Fils de Dieu? Quel bonheur à pleurer de joie du matin au soir dans ce jour éternel? Mon âme, dit le psalmiste, a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, d'écouter le son de sa voix divine et le murmure du chant des anges. Je veux à mon tour lui chanter des poèmes d'amour sur la harpe de David. Rêve ou réalité qui déjà perce le ciel noétique comme subitement le soleil dans la nuée, à la parole de répondre. Et elle nous dit oui, la gloire de Dieu remplit l'univers. L'Esprit de Dieu connaît toute parole qui s'y profère, car la gloire est beauté. La gloire beauté de Dieu pétrit dans la pâte des existants, comme le levain dans la farine pour le pain croustillon. Beauté ici, beauté là, beauté partout. Rien n'échappe à son emprise seigneuriale. Gloire rayonnant de Marie, la toute belle, au royaume des cieux. Je te vois partout, beauté, dans le ciel et sur la terre. Tu te caches quand vient la nuit, ne laissant apparaître que les étoiles du firmament. Tu joues avec moi un jeu d'amour qui se cache pour réveiller en moi le désir. Tu reviens avec la lumière du jour parce que Dieu vous a unis, beauté et lumière. Lumière et beauté pour mes yeux avides de voir les cieux. Lumière et beauté qui blesse mon regard quand la grâce en moi me fait luire un seul reflet magique de votre existence divine. Beauté, tu te ris des artifices de ma raison, tu danses quand je calcule. Tu viens me dépouiller de mes peaux de bête, me revêtir de l'habit d'enfance, des cœurs purs qui voient déjà Dieu. Ma demeure est pleine de toiles d'araignée, mais tu me dis laisse tomber. Laisse ce message, laisse ce ménage, à cause de Marthe, la ferrée, arrête-toi et regarde ma beauté. Ne suis-je pas pour toi l'essentiel? Beauté. Mon Créateur, en me créant, n'a pu faire autrement que me répandre, que me répandre. Son amour pour moi l'a rendu prisonnier, lui, de mes charmes, car je suis tout charme. Aveugle, ne me vois-tu pas? N'iras-tu toujours le Dieu d'amour qui m'habite? Il te l'a pourtant dit, l'amant de ma beauté. Beauté, tu sauveras le monde. Viens donc, salut. Toi qui délies les chaînes de la terre pour me faire monter dans les cieux. Beauté. Alors quelle échelle nous fait grimper les enfants de Dieu jusqu'aux cieux? Eh bien, nous avons trois textes qui vont nous permettre de répondre. Proverbe 8, 22-31. Le mystère de la sagesse dont Dieu se sert pour créer. Nous l'avons déjà évoqué, ce mystérieux personnage de la sagesse qui n'a pas d'hypostase, mais qui est éternel. Auprès des personnes divines. Sagesse 7, dont nous avons lu certains aspects de l'esprit pur pénétrant tout. On va parvenir sur cette grande définition de la sagesse en Sagesse, chapitre 7e. En Ben Sira 24:3, il est dit que la sagesse sort de la bouche du Très-Haut. Et la révélation que nous apporte la parole, un nom mystérieux, du nom, un mystérieux esprit, du nom de sagesse, à la disposition des personnes divines, dans leur éternelle divinité. Car la révélation, c'est la révélation de la divinité, non pas des personnes divines. Les personnes divines, il y a une théologie trinitaire pour connaître les personnes divines. Et cette théologie trinitaire nous dit comment le Père est à l'origine du Fils et de l'Esprit, qu'il engendre éternellement le Fils et qu'il spire éternellement l'Esprit. Nous dit les rapports qu'il y a entre eux. Ce sont ce qu'on appelle les relations d'origine. Donc, la théologie trinitaire va nous dire qui est le Père dans sa nature et surtout va nous dire un grand mystère, celui du Fils qui va aller beaucoup plus loin que, disons, ce qui nous est donné simplement par, par l'Évangile. Et entre autres, elle va poser une question fondamentale. Comment se fait-il que Jésus-Christ, qui vient parmi nous, n'ait pas d'hypostase? S'il n'a pas d'hypostase, il n'est pas une personne. Et pourtant, Jésus est une personne parmi nous. La preuve, c'est qu'on le voit comme une personne dans tout l'Évangile. Et là, la théologie trinitaire s'est posée cette question. Et il a fallu beaucoup de travail pour arriver à dire qu'effectivement, c'est par une action de l'hypostase du Verbe éternel qui, en hypostasie, le Fils. Le Christ est la première créature, si on veut, et en hypostasie, et qui naît dans le Verbe, puisqu'il est le Verbe incarné. Et pour avoir une réalité humaine, il n'a pas d'hypostase. S'il avait une hypostase, il y aurait le Verbe, il serait une personne indépendante. Donc il ne serait pas divin. Il faut donc tenir qu'il est né du Verbe, il est le Verbe, mais le Verbe, en tant qu'il s'est engrossé d'une réalité qu'il n'avait pas, d'une réalité humaine, le Verbe s'est fait chair. Et personne ne pourra jamais après faire la distinction entre la chair et le Verbe. Jésus est toujours le Verbe fait chair. C'est le mystère de Jésus de l'Évangile, qui n'est jamais homme, qui n'est jamais Dieu, qui est toujours homme-Dieu, le Verbe fait chair. Alors, de temps en temps, on le voit davantage du côté où il est humain, et de temps en temps, du côté où il est divin. Et la théologie trinitaire a été de vouloir toujours maintenir l'accord. Et chaque fois qu'on a rompu cet accord, ou bien on est allé du côté du monophysisme, c'est-à-dire d'une seule nature, et qui serait la nature divine, et on a oublié la nature humaine. Alors on a fait des spiritualités qui sont transcendantes, mais qui n'ont plus rien. Et Saint Jean, qu'on a vu, la prière de Saint Jean, c'est de dire que non, le Verbe s'est fait chair. Il n'est pas esprit comme ça. Il s'est fait chair. Il le rappelle. De l'autre côté, eh bien, on s'en va non plus du côté de la divinité, mais on s'en va du côté de l'humanité. Et on ne voit dans le Christ que l'humanité, que l'homme. Et on aboutit à de l'humanisme. Donc, la théologie trinitaire nous apprend que il faut réunir, il faut tenir toujours les deux, l'homme, Dieu. Et pour cela, il faut comprendre comment la nature divine a donné naissance à la nature humaine. Qu'est-ce qu'il y a entre eux? Alors on a dit, on a essayé de définir qu'elles étaient semblables, qu'elles étaient sans confusion, l'une et l'autre sont vraiment distinctes, mais en même temps, elles ne sont pas isolées l'une de l'autre. Alors on essaie, par la théologie trinitaire, d'approfondir un peu ces aspects-là de l'être divin. Et puis, en dernier lieu, au fur et à mesure de l'évolution de la pensée théologique, on s'est heurté à d'autres questions. Et une des dernières questions qui a été débattue et, on peut dire, résolue quand même par Saint Maxime Confesseur, qui est de dire que la question, c'était de savoir si dans le Christ, il y avait une seule énergie, qui ferait la mono le monoénergisme, ou s'il y avait effectivement une confluence des énergies qui se retrouvaient dans le Christ et qui dépasserait alors une question qui se posait, qu'était la liberté et la volonté du Christ. On aboutit à ce qu'il y ait effectivement une énergie propre à Jésus, mais cette énergie aussi est en même temps l'énergie divine. Et alors on a réussi après à faire une espèce de tableau où on voit toutes les données différentes du mystère du Christ. Bon, je vous dis ça comme ça, maintenant il faudrait faire une étude ardue de toutes ces données. Bon, ça c'est la théologie trinitaire. Et puis il y a une autre domaine de la vie divine. Il n'y a pas uniquement l'étude ou l'approche du mystère des personnes divines. Il y a le lieu de leur divinité qui appartient aux personnes divines. Les personnes divines sont là pour vivre une réalité entre elles, une réalité d'amour, une réalité de connaissance, une réalité de bonheur. Et ces réalités-là sont la divinité. C'est leur richesse commune. Donc c'est un autre domaine maintenant. Et ce domaine-là des réalités divines, est-ce que nous pouvons y participer? Voilà la question. Car cette richesse que nous est révélée, c'est la gloire divine, la sagesse. Et la gloire, c'est la beauté. Donc, le bien essentiel de la divinité, de son monde personnel à lui, c'est une divinité qui peut être définie comme une richesse d'amour et de gloire qui font la vie divine. La sagesse, en notre monde, est le contenu de cette divinité. Et la gloire en est sa manifestation. Saint Paul nous dit, ce que Dieu a invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables. Ceux qui ayant connu Dieu ne lui ont pas rendu comme un Dieu gloire ou action de grâce, mais qui ont perdu le sens dans leur raisonnement et leur cœur inintelligent qui s'est enténébré. Alors, ça résume même tout ce que nous avons dit, la deuxième voie. C'est à travers la purification que nous accédons à une connaissance vraie, qu'on retrouve le sens vrai, non seulement le sens charnel, mais le sens spirituel, et que notre cœur devient intelligent. Il est sorti des ténèbres. Et nous rendons à Dieu la gloire qui lui appartient. C'est ce que nous faisons. Car l'absolu divin... Ah, voilà. Il faut le dire encore maintenant. Quand on dit Dieu, qu'est-ce qu'on dit ? C'est un nom. C'est intéressant de penser au nom divin. Parce que le mot Dieu, comment il est né ce mot Dieu? Le mot Dieu, c'est le mot Deus en latin. De Deus vient Dieu. Et Deus est un Dieu de, c'est un mot de lumière. Dei. C'est la lumière. Donc, en fait, quand on dit Dieu, au départ de la racine, on dit la lumière. Et quand et on dit de la lumière, qui se traduit, nous, par le Deus Dei, Dieu. Bah. Mais il n'y a pas que la lumière. Là, c'est formidable, la lumière, parce que vous voyez les hommes dès les origines, qui ils sont là dans ce monde, et puis ils voient surtout la lumière, ils adorent la lumière, ils adorent Dieu. Et pour eux, Dieu est la lumière. Mais Dieu peut être le Très-Haut. Et dans ce cas-là, il faudra un autre concept. Alors, les Anglais appellent... on va donner d'autres noms à Dieu en fonction... God, par exemple, est-ce que God, ça veut dire ce que dit Dieu pour nous là, en Deus, c'est pas sûr. Pas. Hein? C'est-à-dire que dans le fond, chaque culture, devant le même mystère, en fonction de sa culture, va dire le mystère divin dans d'une façon particulière. Mais nous nous sommes hérités de la lumière. Pourquoi ? Parce que Dieu, dans l'ancien, le Dieu se révèle comme lumière et amour. On a beaucoup plus de raisons de dire que Dieu est de dire Dieu en ce sens-là comme chargé de lumière et d'amour. Mais on voit immédiatement aussi que c'est un aspect qui nous est d'une certaine donnée que Dieu a, que on va dire alors un autre mot qui nous vient de là-haut, si vous voulez, et de là-haut ça s'appelle l'absolu. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu est la manifestation créée de l'absolu. Que le mystère éternel, c'est l'absolu. Et l'absolu est incompréhensible, inaccessible, au-delà de tout. Et si Dieu était resté dans son absolu, rien n'aurait été, il ne serait sorti de son absolu. Rien n'aurait existé. Et c'est parce qu'un jour, le Père a décidé de faire sortir de la divinité une création. Et la création est sortie de la divinité et elle est devenue la création que nous connaissons des anges, des hommes, toute la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et voilà le commencement. Le commencement, c'est la sortie de l'absolu qui se fait réalité. Dieu sort de sa transcendance. Mais il reste dans sa transcendance. Et c'est ce que Saint Grégoire Palamas dira, que les énergies qui viennent sont vraiment des énergies divines, mais elles ne disent rien de l'être éternel de Dieu. Elles en sont la communication réelle, mais elles laissent la Trinité inaccessible. Et Dieu restera éternellement inaccessible. Mais éternellement, il se donnera à nous sous le modèle de l'être créé. Les anges qui sont des êtres créés, nous-mêmes. Et qui sont des êtres réellement, et le Fils de Dieu, puisque le Fils de Dieu lui-même, qui s'est fait chair, et qui même auparavant était préexistant, et qu'en lui tout a été créé au ciel et sur la terre. Donc Dieu, en sortant de son existence, a créé tout dans un personnage qui s'appelle le Christ. Ce sont les énergies incréées dont Grégoire Palamas, au XIVe siècle, a mis en évidence en disant que c'est la vraie lumière de la divinité qui s'est manifestée au Tabor par des énergies incréées et qui ont laissé inaccessible son être éternel. Notre monde est donc une création relative à Dieu. Quand on dit relative, on ne dit pas non pas absolue, quoi, mais on dit en relation à. Puisque c'est, la théologie trinitaire parle des relations d'origine, etc. Donc on va dire que notre monde est une création relative à Dieu, tenue par Dieu, que si jamais il soufflait sur sa création, tout disparaîtrait. Elle n'a pas d'existence en dehors de l'existence que Dieu lui donne, mais dont il est toujours le maître. Il y a une existence créée, donc la création, hein, elle dépend du créateur qui l'a créée. C'est à ce moment-là l'œuvre de l'absolu qui, en créant, fait intervenir dans le créé l'éternité. Et l'éternité devient le temps. En créant lui qui est l'immuable, éternel, en créant, il fait venir le devenir, l'écoulement des choses, le devenir. Lui qui est sans lieu ni rien, éternellement, espace infini, même pas espace, mais en créant, il devient espace, le monde devient espace, avec des limites qui lui sont propres à l'être créé et qui descendent de l'absolu. En créant, il manifeste sa divinité dans une réalité d'humanité, dans le cosmos, dans l'être créé, qui devient alors un reflet de la divinité et qui porte dans le créé des racines ou des aspects de l'être éternel, de la divinité. Et c'est cela qui nous occupe maintenant, surtout. Et cela, nous avons dit que c'est l'œuvre de la sagesse, que de réaliser pas parler d'incarnation, mais presque, vous voyez, cette manifestation, plutôt, cette manifestation de l'être incréé éternel, de la divinité merveilleuse. Et c'est là alors que va apparaître le mot beauté. Le mot beauté qui est une réalité de la divinité. Comment se manifeste la beauté pour nous? Ben, c'est ce qui nous a tout. C'est tout ce qui fait qu'on trouve que c'est beau. Mais est-ce que c'est ça la beauté éternelle? C'est un reflet. La beauté et la divinité sont aussi de l'ordre de l'inaccessible. Elle appartient au monde. Et il nous en donne une révélation, c'est certain. On va parler de la beauté créée qui descend, qui se manifeste, qui manifeste la beauté incréée. Alors on a entre les deux toujours un quelque chose. On passe de l'éternité au temps, de l'immuable, à l'écoulement du temps. On passe de la grandeur infinie de Dieu à la petitesse de notre monde, même s'il est immense. On passe d'un Dieu sans commencement avec le commencement de l'univers. Tout nous vient comme ça au moment où le Père a décidé de sortir de son absolu inaccessible, divin, incompréhensible, intraduisible, inaccessible, transcendantal, pour se faire créature. Et le premier-né, Jésus. Car il est dit qu'il est le premier-né de toute la créature. Sagesse. Alors, oui, sagesse, il est beau de connaître tes mains, d'où coule la grâce, mais j'attends plus encore de toi, sagesse. Sagesse, j'ai besoin moi aussi de dire la gloire, de chanter le chant émerveillé de mon cœur. Sagesse, tu as créé, mais moi j'ai besoin d'imiter mon Créateur. Sagesse, viens inspirer mon esprit de la grâce du Saint-Esprit dont tu es la main subtile. Sagesse, maîtresse de l'inspiration qui fait l'art sacré, comment fais-tu jaillir en moi des eaux d'un puits sans fond? Mystère de l'inspiration. Eh bien, c'est à cette question maintenant que nous devons répondre. Qu'est-ce que l'inspiration? On peut discerner deux espèces d'inspiration. Une inspiration bien connue, qui est celle de l'inspiration prophétique. Quand nous lisons l'Ancien Testament, particulièrement, on voit combien des hommes sont mus directement par Dieu et qu'ils manifestent par des oracles, par... Parole de Dieu, disent tous les prophètes. Ils manifestent un message qu'ils reçoivent et qu'ils vont transmettre. Un message qui va être circonstancié, propre aux circonstances, qui ne sera pas le même, avec cette relativité encore du message. C'est que Dieu donne un message qui va, par exemple, moi je ne sais pas, anéantir Sodome et Gomorre. Et puis le prophète reçoit ça, il l'annonce, et puis quelque temps après, il annonce le contraire. Ça veut dire qu'il annonce que Dieu s'est repenti, il ne va pas le faire. Alors, ça veut dire la relativité à la fois de la parole, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux prophéties. Elles ne sont pas données une fois pour toutes. Et aujourd'hui, on entend des choses de ce genre, quoi. Elles sont circonstanciées. Mais le prophète est celui qui reçoit directement de Dieu sa propre parole. Il a une mission. Et il va exprimer donc le message qu'il reçoit. Il y a donc une inspiration connue, facilement compréhensible et qu'on peut facilement aussi connaître, travailler en travaillant la Bible, quoi. L'inspiration prophétique, là, il y a des bouquins là-dessus, on fait beaucoup de travail pour voir comment tel prophète manifeste cette inspiration. Mais il y a une autre inspiration. On pourrait l'appeler l'inspiration naturelle. Alors, quelle est-elle? Alors, on va dire qu'a priori, elle puise sa source, son animation, sa vie, dans les richesses naturelles du monde, pour s'exprimer. En fait, l'une et l'autre, même si on la qualifie d'inspiration, elle est différente, hein, parce que l'une est directe. Dieu me directement le prophète pour un message. L'autre, c'est l'univers. Quelle est l'inspiration que porte l'univers? D'abord, l'inspiration, c'est... On ne peut pas dire l'inspiration que porte l'univers, mais ce que, en regardant l'univers, ce qui nous inspire, disons, ce qui vient de l'univers et qui nous inspire. Alors ça fait intervenir les fameuses énergies créatrices par lesquelles le Verbe divin crée l'univers, par lesquelles le Verbe incarné, Jésus, qui est le bon semeur, selon l'Évangile, et qui sème des grains, qui sème l'intelligibilité du monde. Le monde est ensemencé par l'intelligence divine. Et alors, le travail est de sortir, de faire advenir, de comprendre, de mettre au jour dans notre esprit la connaissance de ces germes divins, de ces semences divines qui sont incluses naturellement dans la nature, dans le cosmos. Quand on regarde la nature, on voit la vie de la nature, on voit la beauté de la nature, on voit les forces, on voit tout cela. On voit comment, mystérieusement, l'abeille qui est en train de faire du miel, la fleur qui fleurit, l'oiseau, toutes les petites bestioles qui se promènent, le monde entier, qui est une vie, le verbe, et c'est le verbe de vie. Jésus est le verbe de vie. Le verbe s'est fait chair et la vie s'est manifestée par lui. Donc c'est une vie. Et tous ces germes-là sont des germes de vie qui font que nous essayons de les connaître. Et toutes ont pour qualité la beauté. La beauté, elle est partout. Dieu a semé la beauté en créant le monde. Cette beauté qui est une beauté donc créée, et qui est une beauté créée. Je reviens en arrière pour l'inspiration prophétique. On a fait la définition, enfin on a approché deux réalités de l'inspiration, celle prophétique et puis celle naturelle dont je viens de parler. Pour aller un petit peu plus loin, dans l'inspiration prophétique, le prophète authentique le devient par un choix de Dieu, ce qui le distingue des faux prophètes qui parlent en leur propre chef. Et c'est Jérémie qui a mis vraiment en lumière ce côté de consécration du prophète dès le sein maternel. Vous vous souvenez dans Jérémie 1,5, « Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré comme prophète des nations, je t'ai établi. » Il y a donc dans le ministère, l'inspiration prophétique, quelque chose qui vient... nous sommes des messagers, il y a un message que nous recevons, et nous devenons un messager de Dieu, son porte-parole, nous recevons une parole de Dieu. Est-ce que c'est valable uniquement pour l'Ancien Testament? Alors, c'est bon, là, ce serait bon de faire une étude, mais on ne peut pas la faire, hein, une étude sur les documents du Concile, dans les chapitres même de l'Église, nous avons les trois grandes qualités de l'être, de nous-mêmes, de la personne. Nous sommes le prophète, prêtre et et roi. Donc le prophétisme se poursuit. Et le prophétisme, ça veut dire que nous sommes inspirés, donc directement par Dieu. Nous ne passons pas par le monde, mais en nous-mêmes, nous recevons des... Comment se manifeste le prophétisme ? Ben, vous savez, d'une façon très simple aussi, il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Hein. Moi, je crois que le prophétisme, c'est quand on rencontre quelqu'un, qu'on est en train de parler, et puis on lui discerne la vérité. Au fur et à mesure qu'on écoute, on voit son problème, et puis on parle ensemble, etc. Et puis il y a un aspect prophétique où on discerne par le don de l'inspiration, on discerne la personne. Hein. La royauté aussi, c'est des études qu'il faudrait faire, donc voir comment nous sommes rois de l'univers à la suite de la royauté divine. Comment s'exprime cette royauté? Dans le baptême, l'onction fait des rois. Donc on a une continuité de ce qui était dans l'Ancien Testament et qui se renouvelle, qui se fait dans le Nouveau. La royauté, l'inspiration, le prophétisme, le prophète, roi et prêtre. Et alors, Vatican II nous dit, il y a les deux types de prêtrise, du sacerdoce commun des fidèles, le sacerdoce de tous, et puis le ministériel pour pouvoir nourrir le peuple de Dieu. Mais tout cela qui avait déjà été annoncé dans l'Ancien Testament, qui fleurit dans le Nouveau. Eh bien, tout ça, c'est l'inspiration prophétique. Nous sommes, nous aussi, des voyants de l'Ancien Testament. On les appelait les voyants. Et le songe est une façon aussi de recevoir l'inspiration prophétique. Alors, dans l'Ancien Testament, le prophète essaie de rendre compte de la parole qui lui a été révélée. Et pour le faire, comment fait-il, le pauvre bonhomme? Il prend des... Surtout Jérémie, c'est extraordinaire dans Jérémie quand on lit tout ça. Des actions symboliques. Pour dire à un certain moment que Israël est en train de... En perdition, je ne sais pas. Il apprend qu'il faut enlever sa ceinture, il faut aller la mettre dans un trou là-bas. Et tout le monde dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Un trou de rocher, il le met là-dedans. Et il dit rien, puis bon, il revient un mois ou deux, je ne sais plus quand, hein, il revient, puis il tire le truc, c'est pourri. Il dit voilà, Israël, vous êtes en train de vous perdre dans ce que vous êtes en train de faire. Action symbolique, beaucoup d'actions symboliques de ce genre. Vous lisez Jérémie, puis vous voyez toutes ces actions symboliques. La parole est un feu brûlant, disait Jérémie. Ça, c'est magnifique. Jérémie 20, verset 9. Un feu brûlant qu'il ne pouvait contenir. Et Saint Pierre écrit en 2 Pierre 1, 21. Ce n'est pas d'une volonté humaine qu'est jamais venue une prophétie. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et que nous continuons ce ministère, nous sommes inspirés par le Saint-Esprit pour parler. Alors l'inspiration naturelle, elle est beaucoup plus difficile à percevoir. Elle demande, je crois, plus d'esprit de finesse pour y arriver, parce que tout le monde n'est pas prophète, et pourtant l'inspiration naturelle est donnée à chacun. Il y a une inspiration personnel qui donne l'activité artistique. Comment la définir? Alors on peut dire qu'il y a une grâce naturelle de l'inspiration dans l'homme. Par cette grâce créée, naturelle, elle nous met en union avec les profondeurs de l'âme du monde. Je crois que c'est l'hindouisme là-dedans. Non.
Dans l'hindouisme, ça s'appelle les rois Rishi. Les rois Rishi. Ça correspond tout à fait à ce que tu as dit ce matin.
Voilà. En union avec ces forces créées, que porte l'univers, et qui est la vie multiple de l'univers, et qui donne aujourd'hui, par exemple, le bouddhisme, des gens, moi j'ai écouté quelqu'un qui me dit, moi, par tout un travail, j'en ressens dans le monde, dans ce monde dans lequel je reçois l'amour, je reçois beaucoup d'amour. Et en même temps, c'est un monde clos. Peu importe, c'est pas un monde, il n'y a pas le nom de Dieu dans ce monde. Il y a simplement un univers merveilleux qui donne une jouissance d'amour. Voilà. Alors je lui ai dit, bon, je veux bien, moi. Mais beaucoup aujourd'hui en sont là. Pour nous, ce n'est pas cela. Pour nous, malgré tout, ça veut dire au moins une chose importante, c'est qu'il y a des possibilités pour tous de puiser dans ce fond commun. Et qu'est-ce qu'elle est son fond commun, en fait? Pour eux, c'est le ciel, la terre, c'est les énergies. Ils parlent beaucoup d'énergie hein, quand on les rencontre. Mais pour nous, c'est la divinité créée. Nous sommes, par le Saint-Esprit, éveillés à percevoir la beauté du monde créé de Dieu, c'est-à-dire sa divinité. On pourrait parler alors de la divinité créée. C'est celle qui se manifeste dans l'homme et qui donne à notre humanité ce que les trois personnes divines vivaient dans leur divinité. Alors, c'est là qu'on peut faire tous les chants d'amour, tous les chants de poésie, tous les chants d'artistique, etc. Et c'est ça qu'on va voir tout de suite maintenant, si vous voulez. Certains arts peuvent paraître mieux manifester cette âme du monde, cette saisie de l'âme du monde, de sa vie intime, de sa vie profonde, de ses harmonies. Et tel artiste sera plus sensible à la poésie, tel autre à la musique, tel autre à la peinture. Mais au fond des choses, c'est la même inspiration qui lui permet d'exercer son art. Alors, une question. Qu'est-ce que l'art? Une réponse que je lis, c'est que c'est la contemplation de la beauté qui parle à la divinité et qu'il révèle au monde. La beauté en elle-même n'a pas besoin d'être de quelque chose. L'art, c'est simplement ce qui révèle la beauté. Sous des formes différentes, la mission de l'art, son être véritable, c'est de révéler la beauté. C'est une sorte de clé qui ouvre la profondeur divine. Et l'art a la conscience de ses limites, de son caractère relatif et même de son incapacité à dire la toute beauté. Alors, il y a une comparaison qui me paraît, que j'ai lue jadis, et qui me paraît très précise pour là-dessus. On peut le comparer à l'activité d'un pêcheur de perles. C'est une belle image, ça. L'activité d'un pêcheur de perles qui plonge dans les profondeurs et qui saisit une perle de grand prix. Alors, il la porte dans ses mains. Et jusqu'à la surface. Mais quand elle arrive à la surface, elle est tellement brûlante de beauté, que les doigts du pêcheur ne peuvent pas la tenir. Alors elle retombe dans les eaux. elle retombe dans la profondeur. Il n'est pas possible de saisir la beauté. On n'a toujours qu'un reflet. Et alors, la passion de la beauté, c'est de plonger dans les profondeurs pour aller encore la rechercher. On est toujours en train de chercher à exprimer la beauté. Pourquoi ? Parce que nous sommes des co-créateurs. Nous avons besoin de nous créer. Nous avons besoin de dire l'être de Dieu. Nous avons besoin de dire Dieu. Et de le dire par l'amour, par le ministère à l'heure du salut, bien sûr, mais aussi par une autre voie de connaissance, qui est la voie de la beauté. L'art, la beauté provient donc d'une action de Dieu, d'une effusion en l'homme de sa grâce miséricordieuse. Elle descend du ciel, alors que l'art, lui, va faire remonter au ciel. Il va recevoir l'inspiration, il va essayer de l'écrire, de la manifester au monde. Mais c'est toujours ce mystère de la beauté qu'il touche, la beauté incréée qui se part de vêtements de création, d'un vêtement créé pour apparaître à nos yeux. L'art, c'est la parole de l'indicible. Et la parole de l'indicible est dite de différentes façons en fonction des différents arts. Mais l'artiste gardera toujours la conscience de son manque de pouvoir de dire l'indicible. Parce que nous restons toujours appesantis dans la matière. Et pourtant, eh bien, c'est notre passion de dire la beauté. Alors on est plus ou moins attiré par différentes façons de le dire. Moi j'aime bien le poème aussi. Je ne suis pas le seul, n'est-ce pas, ici ? L'art, c'est le drame de l'artiste, son insatisfaction, parce que nous sommes des personnes co-créatrices. Nous avons besoin de dire Dieu. Alors, l'un jardin fait son jardin, et dans ce jardin, il mettra toujours des fleurs. Il fera toujours un sort de quelque chose. Il présentera le plat, il fera la nourriture, mais tiens, il va présenter le plat qui sera beau, d'une certaine façon. On a toujours besoin, parce que nous, les fils de Dieu, de dire d'une façon ou d'une autre la divinité de Dieu, le monde de Dieu. Ça fait la courtoisie, ce que le monde d'aujourd'hui a perdu. Ça fait les rapports.
La bienveillance.
Comment ?
La bienveillance.
Elle est de la beauté incréée dans l'être. Elle est naturelle, mais elle est une expression des personnes qui se reconnaissent comme des fils de Dieu.
Mmh. Elle est sous-tendue.
Voilà. Ouais. Et c'est pourquoi Dostoïevski disait que la beauté sauvera le monde. C'est-à-dire que l'art veut transfigurer le monde. L'art est nécessaire. Tiens, tu fais la raison pour laquelle tu as demandé des tableaux chez toi, des gens.
Jean, il en parle bien de tout ça. La contemplation au travers de l'art et la beauté. Il a toujours une lecture éclairée, en fait. Il voit au-delà de ce qu'on voit dans un premier regard. Il nous a fait toute une série de peintures pour le centre.
On a besoin de tout cela, tout ce qui fait autour de nous la présence de la divinité avec un grand V, à une grande D, et qui devient à notre niveau la divinité créée, reflet de la divinité incréée. mais qui restera un mystère, toujours dans l'inaccessibilité. Et toujours on dira des choses qui sont vraies, mais qui sont. Qui reste pour nous à prendre bien compte que la divinité créée est la divinité incréée, mais comme Dieu est inaccessible, il est tout humain, mais il faut encore, il est tout amour, mais encore faut-il savoir quel est cet amour et le goûter, le vivre. C'est notre condition à nous et le drame de l'artiste d'être à la fois une personne co-créatrice et insatisfaite parce que on ne pourra jamais, dire plus que la perception qu'elle a de cet homme du monde au niveau naturel. Maintenant, au niveau, il y a une autre inspiration qui est l'inspiration liturgique. Alors celle-là, on peut dire, sans minimiser la valeur des autres, quel est le sommet. Pourquoi? Parce que non seulement elle célèbre Dieu Trinité, trois fois saint, mais aussi simplement, à un niveau très concret, parce qu'elle utilise toutes les formes de l'art dans la liturgie. Le récit, la mise en scène, la dramaturgie, la décoration, la composition florale, la composition musicale, la fresque, l'icône, le vitrail, l'habillement, les objets du culte, l'architecture, le mobilier, l'éclairage, pour aboutir à un rite liturgique qui épouse la culture dans laquelle il est célébré. C'est le summum de l'art, où tous les arts se confluent. Et sa vocation est d'actualiser les mystères du Christ, qui est la plénitude de la divinité, la gloire du Dieu, Sainte Trinité. L'art a servi à la liturgie. Mais aujourd'hui, avec la sécularisation, peut-il accomplir cette fonction? La liturgie chrétienne est née de la liturgie juive. Avant de prendre sa spécificité, son âge d'art était le IVe siècle, à la suite des grands conciles qui ont défini la vraie foi catholique, et la liturgie a été de célébrer les définitions dogmatiques. Et comme ces définitions dogmatiques ont laissé le champ ouvert au mystère très large de Dieu, il y a eu différents rites. Néanmoins, l'essentiel est célébré dans chaque rite, avec les apports de la culture particulière, ce kérim essentiel qui est de la foi chrétienne, Christ mort et ressuscité. Et cette inspiration-là, liturgique, vient directement du Saint-Esprit que Jésus a donné au monde pour dire la foi droite et les mystères divins. Et c'est ainsi que s'est élaborée la célébration que nous faisons. Nous sommes des héritiers de tout ce travail que le Saint-Esprit a accompli dès le IVe siècle. La liturgie de Saint-Jean-Chrysostome, la liturgie arménienne, toutes les liturgies qui sont nées, en fait, à partir aussi des définitions dogmatiques. C'est-à-dire qu'ils ont voulu célébrer vraiment la vérité en même temps. Et elle donne donc la possibilité de s'unir au roi de l'univers.